la fenêtre d'Overton. C'est ce qu'on a vu dans une série récemment. C'est l'acceptabilité d'une idée, ou une idée qui fait son chemin. La fenêtre d'Overton, ça me fait penser à la série La Fièvre.
Bonjour à toutes et à tous, c'est avec une joie teintée néanmoins d'une légère anxiété que je vous accueille cet après-midi dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen, peut-être un des plus importants de l'histoire de notre émission. Oh, attention, loin de moi l'idée de minorer l'importance d'émissions absolument décisives pour comprendre notre époque, comme Zoom sur la calvitie du 4 avril 2023 ou encore
très bonne émission.
Zoom sur les NAC, les nouveaux animaux de compagnie du 12 novembre 2022. Pour autant, je crois que le concept sur lequel on va zoomer aujourd'hui est plus crucial encore. Vous en avez déjà entendu parler si vous avez fait un bac plus 5 en sociologie politique ou si vous avez vu La Fièvre sur Canal+. Je me range personnellement dans cette deuxième catégorie. Zoom cet après-midi sur le principe de la fenêtre d'Overton ou comment des idées, un jour jugées scandaleuses, inaudibles, deviennent peu à peu, à mesure qu'on ouvre la fenêtre, des questions acceptables dans le débat public. Exemple. Nous sommes le 10 mars 2028, le nouveau ministre de la Défense, Thierry Mariani, a rendez-vous à l'Élysée avec la présidente de la République, Marine Le Pen, et le ministre de l'Éducation nationale, Gilbert Collard, pour évoquer la mise en place d'une mesure phare du programme du RN, l'obligation pour tous les collégiens de faire russe LV1. Mesure de bon sens pour les uns, notamment l'opportuniste Quentin Lui, devenu dès 2027 Quentin Luivitch, nouveau patron de la radio Spoutnik, dont les audiences surpassent désormais celles d'Inter. Mesure choquante pour quelques irréductibles wokistes bas de plafond, parmi lesquels Manon Mariani, figure de la résistance armée surnommée la Marianoche, à qui l'on doit un attentat au cocktail Molotov qui a failli coûter la vie à la secrétaire d'État à l'inégalité homme-femme Thaïs Descuffon. Vous êtes débiles, c'est russe les cocktails Molotov, avait lancé Thierry Mariani à sa nièce. Oui, un beau bordel
non.
Mais l'un dans l'autre, CNews ayant expliqué pendant 6 mois que le russe était une langue magnifique, celle de Pushkin et de Lermontov, l'opinion publique avait fini par accepter cette idée de russe LV1 obligatoire. La fenêtre d'Overton, c'est ça. Quand une idée folle, un jour, devient acceptable le lendemain. Alors qu'est-ce qui est discutable aujourd'hui qui ne l'était pas hier? Est-ce que la fenêtre d'Overton n'est pas en train de s'ouvrir un peu trop vite? Est-on désormais face à une véranda d'Overton? Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Raphaël Liorca.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Zoom Zoom. Vous êtes communicant, auteur, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes un spécialiste de l'opinion publique et de la manière dont elle se fabrique. Je signale aussi que vous avez participé à la rédaction du livre Loin de Paris, dirigé par Salomé Berlioz, que nous avons reçu la semaine dernière. Et alors avec vous, on va tout comprendre à ce concept passionnant qu'est la fenêtre d'Overton. Juste le temps de vous présenter ceux qui ne sont pas encore la Marianoche et le président-directeur général de Spoutnik Radio. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
S'il y a de la bonne radio à faire, on sera là.
Oh mon Dieu. À vos côtés, Raphaël. Si les choses tournent mal, que les États-Unis nous lâchent vraiment, qu'on se retrouve en 2027 avec une présidente pro-russe, un audiovisuel public chapeauté par Jordan Bardella et qu'on est obligé de changer le générique de Zoom Zoom Zen pour... Choisira-t-elle de résister de l'intérieur, comme Charline? Je plaisante, bisous bisous. On choisira-t-elle de quitter France Inter pour plastiquer les Lada? Oui, c'est vrai, vraiment. C'était juste pour faire un bon mot. Choisira-t-elle de quitter France Inter pour plastiquer les Lada de fonction des ministres? Seul l'avenir nous le dira. En attendant, Manon, vous nous direz qui est l'autre personne à suivre sur cette question de la fenêtre d'Overton?
Pas Thierry Mariani, hein, qui, je le rappelle, n'est ni mon père ni mon oncle, Mathieu.
Il est quand même de votre famille.
Non, il n'est pas de ma famille. Il y a beaucoup de Mariani en Corse. Bref, je vous présente aujourd'hui un vulgarisateur français que notre cher Benjamin Tranier imite à la perfection. Il a notamment repopularisé ce terme de fenêtre d'Overton à travers ses chroniques.
Ah oui, ça y est, ça,
les bagues.
J'ai mis du temps
le regard interdit de Benjamin.
Je voyais pas qui c'était. En même temps, il fait 47 personnages, Benjamin Tranier, je savais plus. Face à vous, Raphaël, pour lui, en 2027, le choix sera vite fait. La donne ayant changé et Radio France étant désormais dirigée par le progressiste modéré Pascal Praud, il quittera le service public qu'il juge trop critique vis-à-vis du Kremlin pour reprendre les rênes de Radio Spoutnik. Radio sur laquelle il présentera également la matinale en duo avec Sarah Knafo. Son édito du 12 mai 2028, un hommage au nouveau prix Nobel de la paix Sergueï Lavrov, lui vaudra même d'être invité l'été suivant dans la datcha de Vladimir Poutine. Quentin, en attendant cette ouverture totale de la fenêtre d'Overton avec vous, vous êtes allé en parler avec les passants.
Sarah Knafo, qu'on a vu à la marche du 8 mars ce week-end en soutien aux femmes victimes d'agressions sexuelles avec cette banderole « Violeur français en prison, violeur étranger dans l'avion ». C'est une vraie info, je vous la glisse comme ça. S'il y a une fenêtre entrouverte, elle est là, Sarah Knafo, vivant la matinale. Justement, dans la rue, je suis venu discuter avec vous de ce qui est dissible ou non en société. Comment ça a changé, comment ça a évolué? Vous l'entendrez, ce n'est pas de tout repos.
Vers 16h30, pour eux, la fenêtre d'Overton n'est pas une fenêtre, mais une baie vitrée géante, avec vue sur le pire. Mais saurez-vous découvrir les champions de la fenêtre d'Overton à travers leur bio Tinder ? Réponse dans le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, Marine Leonardi nous rejoindra. Mais d'abord, Raphaël Yorka, pourquoi est-ce qu'on reparle en ce moment de cette fenêtre d'Overton ? C'est vrai que c'est une expression qui revient dans l'actualité.
Alors d'abord, c'est très drôle et je crois que vous ne le savez pas. Et c'est un hasard, une coïncidence assez folle. Dans une réalité parallèle, nous serions peut-être dans un moment de discussion d'un ouvrage de promo que je n'ai jamais sorti.
C'est-à-dire ?
En fait, je devais écrire un livre sur la fenêtre d'Overton il y a un an et demi. J'ai commencé à travailler, j'ai signé un contrat d'édition, tout ça, avec les éditions de l'eau avec lesquelles je travaille, et je ne l'ai jamais rendu. Parce que j'ai bloqué, parce que, en fait, mon objectif, c'était de trouver des moyens de refermer la fenêtre d'Overton, et il y a un an et demi, j'arrivais pas à trouver de solution. Donc, vous voyez, c'est assez rigolo.
Ah bah oui, effectivement.
L'actualité, alors, biographique pour moi, elle est là. Alors ensuite, plus sérieusement sur le sujet, ce concept donc popularisé auprès du très grand public par Eric Benzekri et sa série La Fièvre sur Canal+, puisqu'il en fait un nœud narratif assez central dans sa série, hein, en l'occurrence sur le sujet des ports d'armes. Comment est-ce qu'une communicante d'extrême droite rendrait acceptable l'idée d'autoriser le port d'armes à la façon américaine en France? C'est un concept assez confidentiel qui clapotait dans les voilà, il fallait avoir un bac plus 5 en sociologie politique pour en avoir entendu parler. Et aujourd'hui, on en parle beaucoup parce que, précisément, avec ce qui se passe aux États-Unis, on a un peu l'impression que chaque jour vient écarter, élargir un peu plus cette fenêtre d'Overton, où des choses qui nous paraissaient encore, il n'y a pas si longtemps, totalement dingues, sont aujourd'hui commentées, mais répétées et au fond totalement normalisées dans le débat public.
D'où l'importance de comprendre ce concept aujourd'hui ensemble. Depuis une semaine, depuis que les États-Unis semblent ne plus être les alliés inconditionnels de la France, il vit un déchirement identitaire entre ces deux pays. Puisque je vous rappelle, si Cyril Lacarrière n'est pas né à Memphis, dans le Tennessee, comme il l'avait écrit sur son CV pour intégrer le FBI, mais à Pontecombo, dans le Val-de-Marne. Il a néanmoins travaillé longtemps à l'ambassade américaine de Paris. Alors, chaque soir, il prie en jouant l'hymne américain à la flûte à bec que tout ça ne soit qu'un vilain rêve. Cyril, racontez-nous cette fenêtre d'Overton, d'où ça sort ?
Bonjour Mathieu. Je vous présente...
Je vous ai déjà dit bonjour six fois aujourd'hui, vous savez ?
Entre nous, les bonnes manières sont passées. Je vous présente Joseph Overton, un chercheur américain en politique publique. C'est dans le courant des années 90 qu'il se rend compte d'un truc. Les hommes et femmes politiques ne peuvent pas dire ou proposer n'importe quoi sans risquer de plomber leur avenir, leur carrière. Observation facile, mais toujours est-il qu'il va être plus malin que les autres, car lui, il ne va pas se contenter de juste faire un constat, il va aussi le théoriser et lui donner son nom en plus à cette théorie. Voici ce que dit Joseph Overton. « Les idées acceptables à un moment donné ne dépendent pas des convictions personnelles des politiques, mais plutôt de ce que l'opinion publique juge comme discutable ou acceptable. En gros, on ne dirigerait plus par conviction, mais simplement par opportunisme. Là voilà la fenêtre d'Overton, un cadre dans lequel seules certaines idées peuvent être débattues sans créer le scandale, en tout cas dans un moment donné. »
Mais tout le problème, c'est que cette échelle, elle évolue.
Oui, et on le constate tous les jours. Je vous fais une petite chronologie. L'idée est d'abord impensable, voire même choquante. Puis cette idée devient une idée radicale, avant de devenir acceptable. Ça veut dire qu'elle entre lentement dans le débat public. Puis l'idée est qualifiée de sensible, et on entend les médias en parler sans la marginaliser. Ensuite, on passe au stade de l'idée populaire, avant qu'elle soit embrassée par la classe politique. Et c'est comme ça que la fenêtre d'Overton s'est ouverte en grand. Comment tout ça se passe dans le détail, pourquoi ça arrive, quels sont les mécanismes qui ouvrent ces fenêtres, eh bien, on a une heure pour tout comprendre.
Merci Cyril. Raphaël Yorka, cette fenêtre d'Overton, selon vous, je crois que ça remonte bien avant Joseph Overton lui-même. Selon vous, on peut même remonter au 1er siècle avant Jésus-Christ. En tout cas, ce qu'il y aurait eu dans ce fameux livre qui aurait dû sortir.
Surtout le chapitre introductif.
Ah oui, évidemment.
Un point pour appuyer ce que vient de dire Cyril, d'un point biographique très important, c'est que M. Overton était un lobbyiste. C'est-à-dire qu'il travaillait dans un think tank dans le Michigan et qui avait pour objectif de rendre acceptables des politiques néolibérales. Donc ce n'est pas un chercheur, ce n'est pas un universitaire. C'est-à-dire que j'ai regardé, il n'y a eu aucun livre, aucun papier de recherche théorique sur le sujet. Donc ça veut dire que c'est l'observation empirique de quelqu'un qui manipulait l'opinion dans son métier et qui a essayé de le conceptualiser. Bon, une fois qu'on a dit ça... Quand on discute un peu avec des gens dont c'est le métier précisément de travailler sur l'opinion, ils disent en gros que Overton est venu conceptualiser une notion qui est en fait très ancienne. Et pourquoi le 1er siècle avant Jésus-Christ ? C'est le roi Mithridate qui est un roi du Bosphore. Il a été célèbre parce que, vous savez, c'est cette légende sur laquelle, parce qu'il avait peur d'être empoisonné, il prenait des doses de poison tous les jours pour que le jour où on l'empoisonnerait, il résisterait. Et Jacques Pinant, qui est le grand communicant de François Mitterrand, avait en fait théorisé la mitridatisation de l'opinion publique. C'est-à-dire, justement, avec cette idée, selon laquelle, en injectant de petites doses homéopathiques, l'opinion publique serait insensibilisée à des choses plus radicales. Donc ça, c'est un premier élément. Il y a une deuxième référence pour moi qui est très importante dans le milieu de la communication, qui est effectivement la référence au nazisme et la façon dont un philologue, Victor Klemperer, dans un livre où vraiment s'il y a un livre à lire sur cette notion-là, que je recommande aux auditeurs, c'est LTI, Lingua Tertia Imperii, qui est en fait un carnet de recherche sur la façon dont la langue nazie réussissait, par la langue même et par les torsions sémantiques des mots, des expressions qui revenaient, etc., arrivait à promouvoir le nazisme. Et que disait Klemperer ? Eh bien, la même référence au poison. Il disait, la façon dont le nazisme a su s'imposer dans les têtes, c'est précisément par le langage, qui agissent, disait-il, comme des microscopiques doses d'arsenic qui, au départ, ne font pas d'effet et qui, sur le très long terme, modifient les consciences. Donc, vous voyez, ce sont des notions qui circulent, la force du langage, etc., pour rendre acceptables des choses qui ne l'étaient pas. Et finalement, Overton est venu rendre tout ça dans un cadre et dans un concept bien nommé.
Et puis, c'est plus facile de dire la fenêtre d'Overton que la mitridatisation, ou je sais pas quoi. Hein, c'est ça.
France Inter. Zoom, zoom, zoom. Mathieu Noël.
Qu'est-ce qui fait qu'une idée révoltante un jour devient acceptable ou en tout cas discutable le lendemain ? Zoom cet après-midi sur le concept de la fenêtre d'Overton avec le spécialiste de l'opinion publique, co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès, Raphaël Liorca. Raphaël, cette fenêtre d'Overton, on en entend parler depuis finalement assez peu de temps, en tout cas le grand public, mais elle sert aux hommes politiques depuis très longtemps.
Oui, mais pas dans ces proportions-là.
Il se passe quelque chose.
C'est là que je trouve qu'il y a une vraie révolution ces 5-10 dernières années, en réalité. C'est-à-dire que la radicalité qui était autrefois, au fond, un frein qui condamnait le personnel politique à être en marge du personnel politique et du débat politique. La radicalité qui était un frein est aujourd'hui un moteur. On le voit de plus en plus. J'ai le souvenir de Giuliano D'Ampoli, qui, à l'automne 21, avait fait une tribune dans Le Monde.
C'est l'auteur du match du Kremlin.
Absolument. Et des ingénieurs du chaos, qui est vraiment un spécialiste de ces questions-là, et qui avait en fait raconté qu'Éric Zemmour avait une tactique. Alors, il n'avait pas parlé de la fenêtre d'Overton, mais il en avait donné une autre définition que je trouvais parfaite, qui consistait à faire baisser le coût d'adhésion à la radicalité. Voilà. Et en fait, c'est une définition que je trouve parfaite. C'est-à-dire qu'il y a toujours un coût, en principe, pour embrasser des thèses radicales. Il n'y a pas si longtemps que ça, au travail, faire le coming out mariniste, dire « j'ai voté Marine Le Pen » ou « j'entends voter Marine Le Pen aux prochaines élections » était quasiment synonyme d'isolement social, etc. Donc il y avait un coût, ne serait-ce que social.
Mais justement, là, vous donnez un exemple, mais pour qu'on soit aussi dans le concret, quels propos on tient aujourd'hui qu'on ne pouvait pas tenir il y a 15 ans ?
Alors, je trouve que ce qu'on a vécu en France dans cet automne 21 est hyper révélateur. La notion de grand remplacement, qui était, pour rappel, forgée dans les années 2010 par Renaud Camus, qui végétait dans quelque chose de très minoritaire au sein de la fachosphère, explose et devient un sujet d'interview sur LCI lors de la primaire de la droite, où David Pujadas et Raoul Selkrieff, qui ne sont tout de même pas des agents de l'extrême droite, mais pose la question successivement à l'ensemble des candidats de la droite, et vous le grand remplacement. Bon, il ne s'agit pas de pointer du doigt de journalistes en particulier, il s'agit de montrer que, en l'espace de quelques semaines à peine, cette expression qui était inacceptable, c'est-à-dire que lorsqu'elle était prononcée, était immédiatement condamnée par l'ensemble de l'écosystème et politique et médiatique, d'un coup devenait l'objet d'un débat. Bon, ça c'est un exemple que je trouve extrêmement majeur. Et alors, moi il me semble que pour le comprendre, il faut rentrer dans la mécanique. En fait, il faut soulever le capot, parce qu'il existe des techniques. Et c'est pour ça que cet Overton, il est important. C'est-à-dire que lui, c'est un lobbyiste. Peu importe Mitridate, peu importe Klemperer et le nazisme. Lui disait, mais comment ça fonctionne ? Bon. Il y a une première tactique, et je prendrai l'exemple du grand remplacement et la campagne d'Éric Zemmour, que j'ai appelé, moi, le débordement par l'extrême. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, visualisons ça avec une échelle de 0 à 10. Imaginons que sur le spectre du dissible et de l'acceptable dans le débat public, c'est entre 4 et 6. Comment faire accepter un propos à 7 ? Parce que si on le dit tel quel, il est condamné. Eh bien, il suffit, alors les choses ne sont pas aussi automatiques, mais la théorie, c'est ça, qu'un autre individu propose quelque chose à 8 pour que par effet de contraste, le 7 paraisse beaucoup moins radical.
C'est peut-être ce qui s'est passé sur le plateau de CNews de Pascal Praud. Fin janvier, il dit à Gérald Darmanin, ministre de la Justice, « Est-ce que vous avez pensé à rouvrir des bagnes ?» Il lui répond « Bah non ». Et donc forcément, là il infuse une idée.
Un excellent exemple. Overton avait théorisé ça. Il avait une phrase que je trouve mais géniale pour comprendre le fonctionnement des médias. Il disait « Le simple fait d'organiser un débat le légitime, un débat médiatique. » C'est-à-dire que aujourd'hui, les tenants de la liberté d'expression disent « Mais attendez, tous discutent. Il existe des idées dans le débat public, il faut qu'on puisse le discuter. »
Donc les médias ont une part de responsabilité cruciale dans cette affaire de l'ouverture de la fenêtre d'Overton.
Disons que pendant très longtemps, elles jouaient le rôle de gatekeeper. C'est-à-dire que c'était les gardiens du temple qui faisaient le filtre entre ce qui avait le droit de pénétrer un média ou ce qui n'avait pas le droit. Mais vous voyez, l'intuition d'Overton, elle est importante. C'est-à-dire que le simple fait d'organiser un débat le légitime. Pourquoi ? Parce que l'auditeur, qu'est-ce qu'il se dit, ou téléspectateur ? Attendez, il y a un débat pour ou contre. On pose la question, c'est que la question se pose. Donc peut-être que moi, dans un premier temps, je vais me dire, attendez, c'est totalement dingue. Mais le simple fait que la question soit posée fait entrer. Vous voyez, et on revient à la dose d'arsenic dont je parlais tout à l'heure. Ça plante une graine, enfin c'est une autre métaphore, qui pourrait ensuite pousser ou non. Mais juste sur le rôle des médias et des journalistes, il y a un deuxième espace technologique qui a émergé et qui quand même coïncide avec cette espèce d'explosion de la fenêtre Overton. Ce sont les réseaux sociaux, c'est-à-dire que précisément, qui sont l'espace de dérégulation, où précisément, on le connaît maintenant, il y a des techniques de manipulation des réseaux sociaux pour faire en sorte de faire paraître comme majoritaires les opinions qui sont en fait extrêmement minoritaires.
15 idées de trek en Biélorussie, mes meilleures adresses de Borch à Paris, Saint-Valentin offrait un samovar. Voici quelques-uns des articles qu'il signera pour le magazine Novaya Pravda au tournant des années 2030.
Je vais avoir un peu de taf.
En attendant, vous allez apprendre.
Prenez des cours avec Mathieu.
Mais je parle un peu. Ouais. En attendant de retourner votre veste, j'ai envie de dire une fois de plus, chez France Bleu, on vous appelle le Judas du micro. Vous poursuivez, Quentin, vos micro-trottoirs. Alors, les gens dans la rue, déjà, est-ce qu'ils connaissent le principe de la fenêtre d'Overton ?
Je vous propose qu'on aille le vérifier ensemble. En arrêtant, d'abord ce il s'appelle Pierre-Jean, un long manteau gris, des lunettes rondes.
La fenêtre d'Overton.
C'est ce qu'on a vu dans une série récemment ?
C'est l'acceptabilité d'une idée ? Ou une idée qui fait son chemin ? La fenêtre d'Overton, ça me fait penser à la série La Fièvre.
Alors pour lui, qu'est-ce qui n'est pas dissible en société en 2025 ?
Ah non mais là, vous me cueillez à froid.
C'est comme ça que je cueille les gens, en général.
Séparer les gens selon leur couleur de peau, selon leur revenu, même si c'est déjà le cas, selon leurs idées politiques, de les séparer de manière géographique, par exemple. Enfin, c'est pas dissible dans le sens où on peut pas en parler autour d'une table, on va pas se mettre à parler de ça, quoi. Entre amis, c'est pas des sujets qu'on met sur la table, parce que c'est des idées qui sont trop fortes et négatives.
C'est vrai que la ségrégation dans un dîner, ça met une ambiance chelou, il a raison, mais dans 30 ans, pourrait-elle s'ouvrir à ce point, la fenêtre d'Overton ? Je vois ce monsieur attendre, assis sur un banc public vert de la ville de Paris, cheveux blancs, mallette en cuir posée sur les cuisses.
Je peux m'asseoir à côté de vous ?
Mais oui.
Quel est votre prénom ?
Robert.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie, là ?
Ben j'attends parce que je suis en avance pour aller donner une leçon de mathématiques à une élève de première.
Vous donnez des cours particuliers ?
Oui, voilà.
Je parle à ce prof de maths à la retraite de cette fenêtre d'Overton.
Ce qui doit être dissible en public. On est en public, là.
Oui. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire en public, là, en 2025 ?
Je sais pas qui écoute, mais quand je vois ce qui passe, même sur des chaînes télévision, je me dis qu'on peut dire énormément de choses, malheureusement. Je vais prendre un exemple de ma génération. Les camps d'extermination étaient un détail de la Seconde Guerre mondiale.
Ça, c'est Jean-Marie Le Pen ?
Un certain monsieur Le Pen qui a dit ça. Bon, donc vous voyez, ça, je trouve que c'est indicible. Et d'ailleurs, je crois que ça a été porté devant la justice.
Oui, Jean-Marie Le Pen avait été condamné à verser 1,2 million de francs à 11 associations pour avoir déclaré en 1987 que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire. Alors justement, je demande à Robert, alors que les livres négationnistes sont interdits en France, si ce serait imaginable d'en débattre aujourd'hui.
Oui, je pense que c'est parfaitement possible, oui. Puis aujourd'hui, il y a plus que la télévision, il y a les réseaux sociaux, donc la télévision, c'était encore sous contrôle, parfois pour le meilleur et pour le pire, mais bon, aujourd'hui, c'est plus le cas.
Le monde a changé.
Ah oui, ça, il a changé.
Maya a 18 ans, elle traîne avec ses potes, jean taille basse, bonnet sur les cheveux. Elle a entendu parler de la fenêtre d'Overton.
Moi, j'en ai vachement entendu parler sur les réseaux sociaux. Donc, il y a beaucoup plus de choses qui peuvent être dites aujourd'hui sur les plateaux télé, par exemple, avec des chaînes de télévision qui peuvent diffuser des idées beaucoup plus extrêmes.
Pensez à qui ?
Je pense à TPMP, par exemple.
Cyril Hanouna il y a 15 ans.
Ça a passé moins au niveau de l'opinion publique, en tout cas. C'est moins acceptable.
C'est plus accepté maintenant. Maintenant.
Elle prend aussi l'exemple du fondateur du Parti Reconquête, Éric Zemmour.
Alors que je pense qu'en revenant 20 ans ou 30 ans en arrière, c'est des personnalités qui n'étaient pas, même pas acceptées dans l'opinion publique. Et là, le fait qu'elles aient une place médiatique, ça montre aussi que la fenêtre s'est déplacée.
Ça te fait peur ?
Moi, oui, personnellement, oui. Oui, oui. J'essaye de garder l'espoir, mais oui, ça me fait peur.
Ma dernière rencontre, c'est Brice. Et ce n'est pas Brice qui m'intéresse dans le prochain son, mais bien ce qui va se dire derrière. Tendez bien l'oreille.
La fenêtre d'Overton. Je crois que c'est avec les propos d'Éric Zemmour qu'on a commencé, que j'ai commencé à entendre parler de ce terme.
Attendez, mais justement, on en parle.
France Inter, radio de facho, je le rattrape et je lui demande ce qu'il veut dire.
Bon, pour moi, France Inter, tout ça, tous ces radios mainstream de la bien-pensance, c'est des radios de l'ordre établi, fascisant pour moi. Et le fascisme aujourd'hui, c'est LFI, voilà. Il y avait plus de liberté d'expression il y a 15-20 ans qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'autocensure généralisée.
Alors, point important, c'est vrai que paradoxalement, on dit que la fenêtre d'Overton s'est ouverte et d'un autre côté, et qu'il y a moins de liberté d'expression. J'écoute maintenant son raisonnement.
C'est-à-dire que la France insoumise, elle a commencé à draguer les communautés parce qu'il y avait une désindustrialisation, le quart-monde, il a remplacé la classe ouvrière, et pour garder une assise, ils ont oublié la lutte de classe. Ils ne sont plus dans une logique de lutte de classe, ils sont dans une logique de racialisation, c'est tout. Et donc les nouveaux fascistes, c'est eux pour moi.
Vous pensez qu'il y a un grand remplacement ?
Comment ?
Il y a un grand remplacement ?
Ouais, je le pense, oui. Je le pense, c'est pas fasciste de dire ça.
Non, mais disons que ouais. La façon décomplexée d'aborder le thème, c'est ça la fenêtre. C'est ça la fenêtre d'Overton.
La société, elle a changé, c'est tout. C'est qu'aujourd'hui, quand on voit les rapports de la France et de l'Algérie, etc., on voit bien qu'il y a un colonialisme inversé. Il faut arrêter de délirer, je me casse.
Il y a 20 ans, je suis pas certain que dans la rue, j'aurais eu un discours si décomplexé à mon micro, tout en me faisant traiter de facho. CQFD, la fenêtre d'Overton.
Raphaël Liorca, un mot peut-être, on revient sur la notion de liberté d'expression entre ceux qui disent qu'on a ouvert cette fenêtre d'Overton en grand et ceux qui, au contraire, considèrent qu'il y a une liberté d'expression en recul aujourd'hui. Où est la vérité ?
Alors je ne serai pas l'arbitre des élégances et des vérités,
répondez,
évidemment.
Raphaël Liorca.
Non, mais c'est un paradoxe et c'est vrai que c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le sentiment que la fenêtre d'Overton s'ouvre, mais un peu de partout. Et c'est peut-être un autre point que je voudrais avancer. C'est-à-dire qu'on a beaucoup avancé l'idée sur laquelle c'était des stratégies d'extrême droite d'élargir la fenêtre d'Overton. En réalité, quand on regarde dans le détail, la fenêtre d'Overton, elle s'ouvre sur d'autres segments de la population et de la société, parfois pour le meilleur. L'exemple type, c'est l'acceptabilité du discours homosexuel dans les médias. Il y a énormément de progrès qui ont été faits ces 30 dernières années. Mais on peut prendre des exemples plus précis. Par exemple, la notion de décroissance, elle est en voie d'overtanisation. Pardon, j'ai du mal à prononcer tous les mots mouillons. C'est-à-dire que cette idée qui était totalement inacceptable et taboue, parce que, évidemment, en contradiction avec toutes les règles du capitalisme, est en train de faire son chemin petit à petit. Je pense notamment à quelqu'un qui s'appelle Gaia Harrington, qui est en fait la vice-présidente de Schneider Electric, qui est au cœur du capitalisme, et qui vient de faire un TEDx pour précisément prôner la décroissance. Donc là, on est vraiment au cœur de la machine.
Attendez à se faire virer, à mon avis, quand même.
Quelque chose de... Non, vous voyez, c'est un exemple intéressant. Mais ce qui me semble, moi, important de penser, c'est que Overton, à son époque, réfléchissait avec une opinion qui était, au fond, assez homogène. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans des bulles, dans des segments très identifiés. Autrement dit, il y a plein de fenêtres d'Overton un peu partout, mais pas sur les mêmes sujets.
Mais quand même, cet homme qui me parle de racialisation, de grand remplacement, de colonialisme inversé, de façon totalement assumée et décomplexée, ça vous surprend ?
Alors non, parce que moi, il se trouve que dans mon travail, je fais énormément de focus group avec justement ce segment très identifié qu'on appelle les identitaires, qui a vraiment un segment idéologique et un système de valeurs très identifié. Et donc ça, pour le coup, je l'entends quasiment toutes les semaines dans mes focus group, donc je ne suis pas surpris à titre personnel. En revanche, c'est illustratif du rôle d'entraînement de certains concepts. Parce que là, ce qui est très important de comprendre, c'est que ces concepts-là, ils sont performatifs. C'est-à-dire que ce ne sont pas juste des métaphores ou des concepts dans l'air. Ils agissent sur le réel. Cette personne-là, il y a 5 ans, sans cette notion de grand remplacement, en appui et de tous les raisonnements, n'aurait pas été aussi radicalisé. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un autre exemple, moi, je trouvais vraiment frappant. On revient à Zemmour, parce que, pardon, mais Zemmour, c'est celui qui a introduit toutes ces notions-là dans le débat public. Et au fond, on retrouve les mêmes techniques en Espagne avec Vox, en Italie avec Meloni, en Grande-Bretagne avec le Brexit. C'est au fond, à chaque fois, les mêmes techniques de rendre radical ce qui ne l'était pas auparavant. Mais autre exemple de Zemmour que j'avais trouvé frappant, à un moment donné, il avait fait toute une sortie sur, vous savez, Pétain a protégé les Juifs français. Et un sondage avait paru 2 semaines après, et il y avait un gros tiers de la population française qui disait, en fait, effectivement, je suis d'accord avec ça. Bon. C'est-à-dire qu'il avait réussi à déplacer, alors on ne connaissait pas la proportion avant, mais il avait réussi à déplacer une masse très importante. Et je reviens parce qu'il y avait l'exemple de Jean-Marie Le Pen et des camps de concentration. Une des thématiques d'Overton, que l'on retrouve partout dans toutes les nations du monde qui sont confrontées à ce type de problématique, c'est l'histoire. Parce que, précisément, on ne peut pas faire bouger des choses dans le présent si on ne s'attaque pas au blocage psychique et politique dans le passé. Dans la biographie d'Éric Zemmour, rédigée par Étienne Girard, qui s'appelle « Radicalisé », il notait cette expression qu'il avait eue auprès d'un préfet. Éric Zemmour avait dit « Si on ne gagne pas sur Pétain, on ne gagnera sur rien ». C'est-à-dire qu'il avait identifié parfaitement le point d'étranglement de ce qui peut peser ou pas, faire bouger, parce qu'on connaît ce passé noir, et à partir du moment où on change la perception de cette époque fascisante, au fond, tout est possible ensuite. Et on retrouve exactement la même chose, vous avez Mussolini en Italie, vous avez Franco en Espagne, c'est à chaque fois le même phénomène.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Alors qu'on zoome aujourd'hui sur le principe de la fenêtre d'Overton, je vous propose à présent qu'on joue avec ceux qui n'ont pas peur de l'ouvrir en grand, cette fenêtre, quitte peut-être à propulser le monde dans le chaos. C'est pas leur problème, un quiz au principe simple. Vous allez voir, je vous lis la bio Tinder d'une personnalité qui aime repousser les limites du débat public et vous me donnez son nom. Exemple. Salut ma biche, si tu kiffes les balades en moto le week-end, je te ferai tâter mon pot catalytique. PS, attention, si t'es un klebs, fais le piquer avant notre premier date. Sinon, je m'en chargerai moi-même. Quentin, lui, bien sûr, l'ennemi des animaux et qui prône une taxe sur les propriétaires de chiens. Vous avez l'idée.
Mais n'importe quoi.
Zoom test. Et on démarre en douceur avec quelqu'un qui a su ouvrir la fenêtre d'Overton en très très grand, même si elle lui est un peu revenue en pleine gueule. Top. Cherche partenaire pas ouvert d'esprit pour partager mon monde blanc, hétéro et évangéliste. Viens avec moi construire un Éden sans IVG, sans noir et sans homosexuel où nous danserons la capoeira avec mon copain Neymar.
Ah. Oh. Mon copain Neymar,
c'est un joueur de foot. On danse la capoeira.
C'est un joueur de foot ?
Non, c'est tout simplement une personnalité politique.
Bolsonaro.
Jair Bolsonaro. Il y en a un qui suit au moins, des études autour de cette table. Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien, dont l'humanisme et la tolérance manquent aux relations internationales, me disait Cyril tout à l'heure. Lui qui avait par exemple expliqué qu'il préférait que son fils soit mort plutôt que gay. Autre continent, autre personnalité qui à chacune de ses interventions ouvre un peu plus grand la fenêtre d'Overton, mais dans un autre genre. Top à la bio Tinder. Salut toi, si t'es un minimum déconstruit, entre nous ça peut matcher, mais seulement si tu sais manier le balai. Les pseudo-féministes qui ont jamais aidé leur copine à nettoyer leur moon cup, c'est red flag direct. Et si sur ta photo de profil tu poses à côté d'un barbecue, je te bloque. PS.
Ah, Sandrine Rousseau ?
Si t'es Manon Mariani, oui, comme je sais que t'es un peu bi, ça se trouve t'es sur ma bio Tinder, je te kiffe meuf, trop cool ce podcast avec toi. Dommage qu'Inter préfère augmenter ce vieux réac de Noël plutôt que de financer une saison 2 de mentionner Sandrine Rousseau, bonne réponse.
Merci.
Effectivement.
Pour le clin d'œil, Mathieu.
Le message est passé.
J'espère qu'on entend.
Il a pris l'argent.
Oui, la fenêtre d'Overton s'ouvre dans les deux sens, à droite, mais aussi plus rarement à gauche. En militant pour la création du délit de non-partage des tâches ménagères, Sandrine Rousseau ne contribue-t-elle pas à rendre acceptables des idées plus modérées, comme par exemple une surtaxe sur les produits carnés ? Ah, modérée, mais pas pour Cyril, visiblement, qu'on va être obligé de placer sous perfusion de béchamel. Rassure-toi, vieux, c'était juste un exemple. Passons vite à la bio Tinder suivante.
On peut répondre avant la fin ou faut attendre la fin ? J'ai pas compris, c'est pas clair.
Vous pouvez. Non,
je pense qu'il voulait faire un clin d'œil à mon podcast.
J'avais absolument envie de faire de la pub pour Manon, c'est tout. Kikou la miss. Tu vas kiffer ma barbe de 3 jours, bien plus douce que celle d'un islamiste. Emoji clin d'œil. J'aime voyager, notamment en Europe. Or, pas pour leur culture, je m'en bats les balls à coups de Bible. Non, pour leur apprendre la vie à ces cons et aussi à respecter Donald et Vlad. PS, n'essaie même pas de swiper droit si t'as mis un fucking drapeau ukrainien dans ta
tête. Elon Musk.
Non.
J.D. Vance.
Oh, J.D. Vance, oui, bravo, c'est Manon. J.D. Vance qui est le sosie, c'est terrible, c'est le sosie de mon meilleur ami.
Physique
dans cette émission, c'est terrible.
Mais il le sait, vous lui avez dit ?
Ah non, je suis pas vache. En régie, on me dit je suis vache. Il est venu ici en invité. Non, vous verrez. Il m'a dit lui-même, et j'ai dit quand je l'ai vu, je dis ah oui.
Mais celui avec les vents ?
Oui, oui, tout à fait.
Ah,
oui.
Ça va être bien vos soirées, Saruman.
Je vous en prie, tentez. Attention, attention, attention de ne pas prendre de points de pénalité alors que vous êtes bien
parti.
Cyril
me dit que c'est pas le bon meilleur ami, mais bon, passons.
Ah non, non, c'est mon meilleur ami sur, les, sur l'inclusivité.
Ah, voilà. Okay.
Voilà. voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est comme on s'est complètement égaré, on s'est complètement égaré dans ces musiques. Vous pouvez m'enlever l'hymne américain La Fute avec, ça c'est Cyril qui le joue en régie parce qu'il a entendu le mot G.D. Vance. On va passer à la bio suivante, s'il vous plaît. La bio suivante. Latino aimant l'humour et les coupes budgétaires cherche une chica aimant les grosses rouflaquettes pour participer à des soirées Mireille, libertariennes très débridées. Javier Milei, oui, mais voilà.
Milei,
Milei, pardon, je suis en train de chercher.
Non, mais c'est bon, ça vaut
c'est
un
accepté
point.
Quand même. Ouais,
l'homme de la Pampa est un vrai mal alpha. Rappelons que l'Argentine a quand même voté contre une résolution de l'ONU condamnant les violences faites aux femmes. Même Andrew Tate, il n'avait pas pensé à ça. Bio suivante.
Des belles rouflaquettes, on se dit.
Tradois et Faristo, je me transforme en vraie maîtresse domina pour toute classe populaire qui aime bien se faire châtier. Si tu es un service public qui aime prendre cher, alors sois droite, mais bien bien à droite. Retrouve-moi sur mon OnlyFans Iron Lady.
Ça y se discute ?
Non, là on est sur quelqu'un qui est, on est sur quelqu'un de décédé.
Ah, bon, j'allais dire Nadine Morano, mais non. Ça rentre pas.
C'est Nadine là où
quelqu'un
elle est.
Quelqu'un qui est décédé.
Non, on est sur des personnes prestigieuses.
Donc une femme française mais décédée.
Iron Lady, simplement.
Ah, Margaret Thatcher.
Margaret Thatcher. Mais voyez, quand vous réfléchissez, c'est là que vous êtes le plus fort.
Ah oui, elle est bien décédée, effectivement.
Oui.
On continue. Iron on passe à la question Lady, suivante, oui. Parce qu'on est un peu en retard. On passe à la question suivante.
On enchaîne.
Avec une petite musique disco sexy. Oh, c'est bien joué en régie, ça suit. Boss de fin des Sugar Daddy, si tu cherches un mec endurant, mes batteries tombent jamais à plat, elles explosent. Swipe à droite en direction de mon bras, je te ferai monter au 7e ciel dans ma grosse fusée. Si t'en viens à l'école, parce que dernier temps j'ai eu un peu de mal, Elon Musk, et je crois que vous êtes devant,
quand même.
Je crois que vous êtes devant le cauchemar des démocrates, l'idole de Quentin, Elon Musk. Et terminons en beauté, les amis.
Je vous rappelle.
Terminons en beauté. Hola, ¿qué tal? Soy une mujer muy caliente. Et bilingue, oui, j'adore l'Espagne. Rarement ici sur Tinder, je préfère le site de rencontre droit au cœur, où on est vraiment libre de dire ce qu'on pense, comme par exemple...
Tu nous manques Hitler.
Carole Buisson.
Manon Mariani, Carole Buisson.
Ah oui.
Votre fausse identité quand vous enquêtez sur les réseaux identitaires de droite. Effectivement, et c'est une victoire de Quentin, lui. Ah, ça me fait plaisir, parce que c'est tellement rare. C'est tellement rare.
Oui, c'est rare. Ah, on lance bien la semaine. Merci à tous.
Magnifique. L'heure tourne et toujours personne pour fermer cette satanée fenêtre d'Overton. On continue d'analyser ce principe avec notre invité, le co-directeur de l'Observatoire Marc, imaginaire de consommation et politique à la Fondation Jean Jaurès, Raphaël Lurca, le communicant intello, comme l'appelle le magazine Technicar. C'est une bonne situation, ça, communicant intello.
Ça paye pas beaucoup.
Ça paye pas beaucoup, mais c'est chic. Vous avez étudié, Raphaël, cette fenêtre d'Overton dans un cas particulier. On l'a évoqué tout à l'heure, celle de la série de Canal+, La Fièvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? C'est particulièrement bien expliqué et illustré dans cette série.
Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu la série, le pitch, c'est le face-à-face de deux communicantes. D'un côté, Sam Berger, la gentille, d'un autre, Marie Kinski, la méchante. Et la méchante essaye de rendre populaire, acceptable, l'idée d'un port d'armes citoyen. Bon. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est de regarder la façon dont elle s'y prend. Elle comprend que pour rendre acceptable ce truc improbable dans la tradition politique française, qui est très américain, en fait, elle va le choper par les femmes. C'est-à-dire qu'elle va monter un collectif, les femmes pour le port d'armes, parce que, dit-elle, bah oui, écoutez, il y a beaucoup d'agressions sur les femmes, et au fond, une bonne façon d'entrer, de faire entrer cette idée dans le débat public, c'est de passer par cette cause, qui est aujourd'hui majoritaire, et on est très content, qui est le féminisme. Et donc, il tord le féminisme pour faire entrer des idées réactionnaires. Donc, vous voyez, ça, c'est une des façons qui illustre parfaitement la série, c'est-à-dire faire en sorte de rendre acceptable cette idée par une petite porte, à savoir le féminisme. Et puis après, il enchaîne, c'est-à-dire que les femmes pour le port d'armes, les commerçants pour le port d'armes, parce qu'en fait, il y a tout un tas de catégories de la population qui, en fait, à titre individuel, pourraient être en faveur de ce port d'armes. Donc, vous voyez, donc c'est une série qui, effectivement, a le mérite de rendre ça extrêmement didactique. Et notamment, il y a une scène, moi, je montre à mes étudiants quand je donne des cours, ça, qu'il y a un tableau.
Oui, elle montre sur le tableau les différentes phases. Elle
dit, écoutez, voilà, il y a une idée qui, au départ, est inacceptable, qui est tabou. Puis, en fait, ensuite, elle devient sensible pour ensuite devenir pourquoi pas acceptable et jusqu'à devenir majoritaire.
Mais on parle beaucoup de la fenêtre d'Overton avec des personnes qui mettent des mots sur des choses sur lesquelles on ne mettait pas forcément des mots avant. Le salut nazi d'Elon Musk, là on atteint vraiment un summum. Ce n'est pas un mot, c'est un geste aussi.
Oui, ça ne passe pas du tout que par des mots. Ce qui est intéressant dans le salut nazi, c'est qu'il y a la conjonction de plein de choses. Il y a d'une part l'effet répétition. C'est-à-dire que la première fois, ça choque. La deuxième fois, lorsque Bannon le fait, alors certes, Jordan Bardella s'en va, mais en réalité, on commande beaucoup moins.
Et donc, en fait, il y a un effet décroissant, c'est-à-dire que le troisième, on ne prendra même plus en réalité. Oui, ouais. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est une autre des techniques pour rendre acceptable un truc inacceptable, c'est la coolisation. La coolisation. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, j'ai regardé ça de près, il y a eu une batterie d'images humoristiques, des mèmes, des humoristes de la fachosphère qui l'ont tourné totalement en dérision.
C'est-à-dire, ça a été projeté aussi sur une entreprise Tesla, ça a été projeté.
Absolument, absolument. Mais exactement, le point, c'est la dédramatisation par le rire, en fait. Et on récupère par le rire des choses qui sont totalement inacceptables.
Raphaël Durca, est-ce qu'on aura des voix modérées qui vont pouvoir se faire entendre dans les prochaines années ? Ou c'est trop tard ?
C'est toute la question. C'est-à-dire que moi, ce que je crains, c'est que structurellement, on ait un champ politique qui favorise ça. C'est-à-dire que
et médiatique aussi.
Et médiatique, absolument. Mais je reste sur le politique. Dans un monde où, au fond, il y avait deux camps qui faisaient face à face avec chacun leur système de valeurs, leur identité, leur programme politique, au fond, on n'avait pas besoin d'aller à la course à la radicalité. C'est-à-dire que chaque camp avait sa sphère radicale, mais qu'elle embrassait dans un courant beaucoup plus majoritaire. Dans un moment où c'est beaucoup plus éclaté, où on voit un phénomène en fait, d'entrepreneur individuel. Et vous avez cité tout à l'heure Sandrine Rousseau, je trouve que c'est un cas très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire que c'est par du Overton, par la radicalité qu'elle émerge. C'est-à-dire qu'elle était, il n'y a pas si longtemps que ça, vice-présidente du parti universitaire, mais totalement inconnue du très grand public. C'est par des propositions radicales qu'elle exerce, qu'elle entre dans le débat public, mais sans être en capacité d'être une personnalité centrale, au sens vraiment du barycentre, quoi. Donc c'est vrai que toute la question, c'est de savoir, non pas est-ce qu'il va en exister, mais comment faire en sorte pour que les voix modérées, centrales, aient encore une part de l'attention médiatique.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir maintenant l'autre personne à suivre.
Oui, je vous présente Clément Viktorovitch. Il a 40 ans, il est français et ces dernières années, il s'est imposé comme une référence pour décrypter le discours des responsables politiques et des figures médiatiques avec l'un de ses outils phares, la vulgarisation. Il se fait notamment connaître du grand public en 2017 quand il devient chroniqueur dans une émission de CNews. L'heure des pros, oui, c'est le générique de l'heure des pros, j'ai découvert ça tout à l'heure.
Presque.
On aime beaucoup, c'est une blague. Et oui, il a passé une saison du coup dans l'heure des pros où il avait le rôle du débatteur de gauche qui analyse les discours politiques. Il dira à Libération que son année était, je le cite, inconfortable. Voilà. L'année suivante, il reste sur la même chaîne, mais pour l'émission de Laurence Ferrari. Et en 2019, il change radicalement de public puisqu'il intègre l'émission de Mouloud Achour, Clic. Sa chronique s'appelle Les points sur les i. Il analyse les procédés rhétoriques employés par les personnalités politiques françaises. Et c'est notamment lui qui a contribué à populariser en France la fenêtre d'Overton.
L'idée, c'est que ce qui nous choque le fait par contraste. Et que donc, une idée choquante à un moment donné, si on la met vis-à-vis d'une idée plus choquante encore, elle finit par devenir raisonnable.
Il a aussi popularisé le terme de sophisme, ces discours qui semblent respecter rigoureusement les règles logiques, mais qui sont en réalité de faux raisonnements visant à tromper intentionnellement un auditeur ou un interlocuteur. Je pense que je proposais ce thème à Cyril. Pour parler à plus de monde, et notamment à la jeune génération, Clément Viktorovitch s'est aussi lancé sur les réseaux. Il a une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, il est suivi par plus de 350 000 personnes sur TikTok et Instagram, où il continue d'analyser les discours et la vie politique internationale. Pour ceux qui ont du mal à comprendre certains articles du Monde, j'ai envie de dire c'est pratique. Clément Viktorovitch a aussi sorti son premier livre en 2022, Le pouvoir rhétorique, où il explore l'influence du langage dans notre vie quotidienne et en politique. Il a aussi un spectacle qu'il joue dans toute la France. Son but, donner des outils pour que chacun puisse décrypter à son tour les discours qui façonnent aujourd'hui notre société.
Merci Manon. Raphaël Lurca, vulgariser aujourd'hui un terme, comme on le fait de la fenêtre d'Overton, c'est vraiment pas gadget, c'est complètement essentiel pour comprendre notre époque en fait.
Et peut-être un hommage très rapide à Clément Viktorovitch, puisque c'est lui qui m'a initié à la fenêtre d'Overton par une vidéo. Donc, voilà. Voyez, la boucle est bouclée.
Bon. Et voilà, et vous êtes...
effectivement, comment s'en sortir ? L'une des façons de s'en sortir, c'est d'abord d'être conscient de ce phénomène-là. Et donc, c'est pour ça que des séries très grand public comme La Fièvre ont été très importantes, parce qu'au fond, c'est l'éducation populaire. Tant qu'on fait des notes à la Fondation Jean Jaurès, malheureusement, je le crains, sauf quand on passe sur France Inter. Évidemment.
Ah, vous passez souvent à la Fondation Jean Jaurès dans notre émission.
Non, mais disons que l'audience est cantonnée à une frange de bien précise, je pense, aux lecteurs de la Fondation Jean Jaurès. Lorsque, évidemment, on l'intègre dans de la fiction, ça beaucoup plus puissant. Autre exemple, Julien Dampouli, dont on a parlé tout à l'heure, avec le mage du Kremlin. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que ça aurait dû être incorporé, ça aurait dû être le dernier chapitre des Ingénieurs du
chaos qui s'était vendu à 10 000 exemplaires, ce qui était déjà raisonnable à l'époque, et dit « je vais regarder pour le roman », bon, il en a vendu plus de 300 000. Donc vous voyez, c'est par la puissance de la fiction qu'on peut aussi déployer et expliquer des concepts compliqués.
À suivre, vous n'avez pas tout compris au principe de la fenêtre d'Overton, s'il faut l'ouvrir ou la fermer. Pierre Courade arrive pour tout vous résumer en une minute chrono. Mais saluons celle qui vient de nous rejoindre en studio et qui aura la lourde mission de nous faire rire avec cette fenêtre d'Overton. Bonjour Marine Leonardi.
Vous auriez dit ça à un homme, Mathieu ?
Qu'est-ce que vous racontez, Marine ?
J'essaie d'élargir la fenêtre d'Overton.
La chronique de Marine Leonardi arrive dans un instant. Et pour la motiver, la mettre, je dirais, en condition optimale, voici son groupe préféré, les Viagra Boys. Man Made of Meat. Sacré programme sur Inter. Of Meat des Viagra Boys, un titre qui ne fait pas l'unanimité autour de la table quand même. Diffuser ça en plein carême, quelle honte. Ce morfond Pierre Courade, notre rédac chef adjoint jésuite, qui en ce moment prie pour deux choses, Pierre, hein, la survie du pape et une réponse positive de CNews à sa candidature spontanée pour rejoindre l'équipe d'Enquête d'Esprit le week-end. Un catholicisme de pure façade, je vous rassure, puisque ceux qui ont eu la chance de le croiser devant le Carmen après notre soirée de Noël en décembre dernier ont pu constater que ce soir-là, à 3 grammes 6, flirtant à tout va, ce n'était pas d'esprit qu'il était en quête. Le moment est venu. Le moment est venu de nous résumer tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Je crois que j'aurais mieux fait de refermer la fenêtre sur cette soirée. En tout cas, aujourd'hui, on a zoomé sur la fenêtre d'Overton, un concept étudié depuis de nombreuses années et qui fait aujourd'hui une entrée fracassante dans notre quotidien. C'est le co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès, Raphaël Yorca, qui nous a apporté son éclairage. La fenêtre d'Overton, c'est l'éventail de ce qui est considéré comme acceptable dans le débat public à un moment donné. Aujourd'hui, en France, il semble inacceptable, par exemple, d'ouvrir un débat sur le port d'armes, comme dans la série La Fièvre. Mais qui sait si un jour cela n'entrera pas dans cette fameuse fenêtre d'Overton, au point où nous en sommes. L'élection de Trump et la montée des populismes chamboulent nos repères, et c'est toute la classe politique qui se sent obligée de suivre. Les propos radicaux entrent dans le débat, la notion de grand remplacement par exemple. Et plus on est iconoclaste, plus on rend raisonnable les extrémistes d'hier. C'est ce que notre invité appelle un débordement par l'extrême. Ceux qui ouvrent la fenêtre d'Overton parlent de liberté d'expression. Ils disent dans le même temps qu'on ne peut plus rien dire, en disant tout ce qu'on pouvait effectivement pas dire avant. Tout ça dans les médias, qui ont donc une part de responsabilité, sans compter sur les réseaux sociaux. C'est en fait la porte ouverte à toutes les fenêtres, pour reprendre le titre d'une très vieille émission de Cyril Hanouna, comme quoi, il n'y a pas de hasard.
Pas de hasard, merci Pierre pour ce résumé cinglant. Marine Leonardi, Marine, je trouve que vous êtes une... Non, je peux pas dire ce que vous avez
mais écrit. Mais si, dites-le, Mathieu, non. Une sale bourgeoise dégénérée gauchiasse. Oh. Voilà, vous n'osez pas le dire à l'antenne, hein. Vous avez trop peur d'élargir la fenêtre d'Overton sur la misogynie en ligne, qui se porte déjà tellement bien, hein. D'ailleurs c'est même plus une fenêtre, hein, c'est une baie vitrée, que dis-je, une véranda. Moi à chaque fois que je poste une vidéo, il y a un mascu pour écrire en dessous gna, 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 pauvre Marie, je te souhaite de pouvoir baiser une vraie meuf un jour. Et moi aussi je lui souhaite, il a le droit au bonheur. Je plaisante, hein, ce ne sont pas des mascus qui écrivent ça, c'est ma belle-mère Brigitte, cette vieille rageuse. Hop, tentative d'élargissement de la fenêtre d'Overton sur les insultes faites aux belles-mères. Au début, quand j'ai lu Fenêtre d'Overton, j'y ai cru. Hein. Je me suis dit, ça y est, on va enfin parler des vrais sujets, les fenêtres. Enfin, ça va débattre performance énergétique et déperdition de chaleur, qui sont deux expressions également utilisées pour décrire mes rapports sexuels. Ah bah, après deux enfants, je peux vous dire qu'elle est bien élargie, la fenêtre d'Overton. Non mais j'étais ravie, moi, de parler un peu de DPE. Je me disais tout ça parce que le Mathieu Noël ne peut plus louer sa résidence secondaire en Normandie, hein, depuis le 1er janvier. Classé G, la longère, non mais quelle tuile, hein. Une pépite, acheté 900 000 euros avec l'argent de la matinale, 3 semaines de dur labeur. Ça me fout les boules. Non mais pour ceux qui cherchent quand même à la louer, vous pouvez taper fistinière dans Airbnb. Elle est super bien notée. Mais bon, les 3 prochains mois sont déjà réservés par Cyrilou75. Attention, 75, c'est l'âge réel de Cyril La Carrière. Allez, pour être tout à fait honnête, je connaissais déjà le concept de fenêtre d'Overton. Ah bah, ça fait tellement chic dans les dîners parisiens. En fait, Cyril Hanouna, il élargit la fenêtre d'Overton vers l'inacceptable. Sans blague, Gaspard. Et toi, dans ta start-up, quand tu sucres les bonus des femmes qui rentrent de congé mat, t'élargis quoi? Non, parce que j'ai quand même l'impression que ta fenêtre, elle éclaire mon cul, là. Mais il a raison, Gaspard. Hanouna, c'est le plus fort en fenêtre d'Overton. Quand tu as maté le complément d'enquête où il soufflait dans l'anus d'un chien et le lendemain, les gens étaient là. Décevant, non, ce reportage. On a rien appris, je trouve. Tu te rends compte que l'acceptable a bien été élargi. Hein. D'autant qu'on était plus choqués du sort qu'il réservait aux chiens qu'aux chroniqueuses. Et en même temps, qui a envie de souffler dans l'anus de Ségolène Royal, franchement? Ramenez-moi un cocker qu'on en finisse. Non, mais c'est fou hein, comme on est devenu tolérant à certaines idées extrêmes. Moi, j'ai des personnes dans ma famille qui sont trumpistes, pour de vrai. Alors, je dirais pas de quel côté, parce qu'après, mes beaux-parents vont faire la guerre. Non, mais ils ont peur que si je révèle leur vraie nature, ils se fassent à nouveau rayer la Tesla. Enfin, la Tesla, comme ils disent. Ils vivent dans le Nord-Pas-de-Calais. Non, mais c'est pas qu'ils aiment Trump, c'est qu'ils aiment bien que Trump dise ce qu'il fait et fasse ce qu'ils disent. Ce qui est quand même con quand tu dis que des conneries. Hein. Bah, d'ailleurs, ma fille Joséphine, elle fait ça aussi. Attention, maman, je vais étaler le caca sur le mur. Dis donc, Joséphine, t'aurais pas été voir le spectacle de Marie Saint-Filtre, toi ? Quelle audace ! Toujours mettre une petite pique à une consoeur mufle. Oui, ça. Apparemment, non, mais j'ai appris ça en lisant la doc de l'émission, ce ne sont jamais les politiciens qui élargissent la fenêtre d'Overton en premier, ils ne sont en réalité que le reflet du peuple. Alors là, ça m'a effrayée. Ça veut dire qu'il y a d'autres mini-Zemmour dans la population, là, avec des grandes oreilles. Non, mais alors après, bon, niveau oreille, je peux pas trop la ramener, hein, presque un air de ressemblance avec Eric. Ah bah moi, je me balade rue de la Pompe, les cheveux attachés, on m'arrête. Hein. Votre père fait un travail. Le Zemmour qui avait quand même suggéré de franciser les prénoms. Encore une super idée à jeter par la fenêtre. Alors, j'ai testé pour vous vitemonprénom.com. Ce site existe vraiment. Et j'ai tapé Merwan Ben Lazar. Hein, et ça suggère Merwan Ben Lazar. Non, mais comme quoi, il y a des prénoms, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. J'ai aussi essayé avec mon prénom et j'ai reçu une notif. Vous êtes ici, chez vous. Venez prendre l'apéro dimanche en 8. Et oui, chers auditeurs, faites attention. Pour toute fenêtre qui s'ouvre, il y a des portes qui se ferment.
Merci Marine Léonardi. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Et vous avez une bonne nouvelle puisque vous ouvrez une tournée des Zéniths. Des Zéniths, wow. Carrément, en 2027. Rien que ça. Allez, ça sera toujours votre spectacle Mauvaise Graine d'ici là. Vous serez comme Johnny Hallyday, à qui on réclamait Gabriel à chaque concert, blasé. La billetterie pour 2026-2027 et sans doute 2039, c'est sur marineleonardi.com. Merci Raphaël Liorca de nous avoir expliqué cette fenêtre d'Overton. Je rappelle que vous êtes le co-directeur de l'Observatoire Marque Imaginaire de Consommation et Politique à la Fondation Jean Jaurès et accessoirement le plus sympa des communicants intello. On va le rappeler. À quand le livre ? Sur la fenêtre d'Overton.
Eh ben...
On s'y met.
Non, on reprend. Je pense que je vais écrire un petit truc. Pas forcément un livre, mais en ligne, quoi. Un truc rapide.
Non, vous avez touché un aveu.
C'est gratuit, vous rigolez.
Attends, c'est dingue, vous travaillez gratos, vous.
Cyril vous apprendra à négocier.
Il veut pas de résidence secondaire, lui.
Non, il s'en fout, visiblement. Zoom, zoom, zen.